Pour ce nouveau numéro d'Histoire d'en savoir plus, un invité exceptionnel, comme je dis à chaque fois, Jérôme Vadou de Bonneval écrit des icônes. Pourquoi dit-on qu'on écrit des icônes, Jérôme? Et bonjour tout d'abord de la part de Maître Renard. Bonjour. Alors, on écrit des icônes,
on
pourquoi ça?
On écrit des icônes. C'est une façon de parler en images. Donc il y a, au même titre que les Saintes Écritures, que la croix, l'icône est une façon de parler aux croyants. Donc on écrit une icône.
Un peu comme on lit les vitraux.
Oui.
Bon, c'est du temps c'est, où...
Voilà. C'est paradoxal, mais on ne dit pas, on ne dessine pas une icône, on ne peint pas une icône, on écrit une icône.
D'accord. Et c'est surtout parce qu'à l'époque, on savait peu lire
peu
et écrire.
Peu lire. Voilà.
Donc c'était on donnait des images.
Voilà, on donnait des images et c'était la façon pour le croyant de rentrer dans l'église et il pouvait lire les saints, ou l'histoire d'un saint, le martyr d'un saint, la crucifixion, le baptême, etc.
D'accord. D'où vient le mot icône? Connaissez-vous l'étymologie du mot icône? Iconos en grec.
Oui, mais non, je ne l'ai pas.
Ça veut dire image.
Oui, mais il y a toute une histoire derrière, parce que l'icône est arrivée en Russie par le biais de la Grèce, mais un peu, on dirait maintenant, par un concours de circonstances ou une appel d'offres. Le terme est plus juste.
Racontez-nous l'histoire.
Si... Alors, il y avait un prince.
Bon, c'est le nom.
J'ai oublié le nom. Il y en avait beaucoup en Russie.
Oui, il n'y a que des princes, en fait. Il y a un serf, mais il n'y a que des princes.
Voilà. Et il cherchait une religion. Il envoyait des émissaires un peu partout. Et des émissaires de Byzance sont arrivés, ont présenté les icônes byzantines.
Byzance, c'est notre actuel Istanbul.
C'est ça. Ils ont présenté les icônes et le prince est tombé amoureux des icônes devant la beauté et la douceur, on va dire, le néophyte appellerait ça du tableau.
Des traits.
Voilà, c'est ça, des traits tout fin, et donc il a fait venir des moines de Byzance, et à partir de là, l'iconographie en Russie s'est développée.
C'est assez, non pas surprenant, mais je me souviens que dans la cathédrale de Chartres, la reine de Saba, sur le portail royal, justement ce qui est frappant, c'est la douceur des traits. Et qui est très différent d'ailleurs des autres portails et statues, colonnes. Bien, alors, les icônes, donc, leur historique, c'est ça. C'est fait en quoi une icône? Comment on fait une icône?
Alors, on l'a fait sur du bois. Pour faire une icône, il faut qu'on n'utilise que des produits naturels. Donc, une planche, en général du tilleul.
Parce que c'est dur, parce que c'est mou.
Parce que c'est un bois qui se travaille facilement. C'est un bois, une fois sec, qui ne se rétracte pas. Et c'est aussi un bois qui était fort présent en Russie. Donc, tous les avantages. Bon, il y a d'autres. Il peut y avoir d'autres bois, mais principalement, c'est du tilleul. Alors, on creuse légèrement une des faces. Après, on la scarifie. Pour en faire rentrer le lefkas. Donc le lefkas, c'est un mélange de colle de peau de lapin et de blanc de meudon. Donc en France, on utilise le blanc de meudon. En Russie, on utilise
le meudon local.
Un blanc peu importe,
local. Hein,
il doit être très 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 fin. Donc on en passe plusieurs couches. Après, on encolle la planche avec un fin linge de coton. On utilise, nous, un drap élimé. Il ne faut pas qu'il soit percé. Il ne faut pas qu'on voit clair à travers la trame. Mais il faut qu'il soit quand même assez usé, qu'il soit vraiment très fin. On remet une couche de colle. Donc, on maroufle bien. Et après, on repasse 4-5 couches de mélange blanc de l'efficace, en fait.
D'accord, c'est un travail extrêmement patient, c'est beaucoup de...
La préparation est très longue. Mmh. La préparation est très longue, parce que maintenant, si on fait des icônes, quelqu'un qui fait des icônes en France, il y a peu de personnes qui...
Peut-être combien, en gros ?
Je ne sais pas.
En gros, une vingtaine, centaine, milliers.
En Eure-et-Loire, il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 4-5 en Eure-et-Loire.
Moi, j'ai une poignée.
Moi, j'ai un maître, ce qui est c'est un couple. Bon, je ne donne pas leur nom parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont cessé toute activité.
D'accord.
Comme ils n'ont pas d'enfants, c'est eux qui m'enseignent. Ici. Donc, après, une fois que le linge est mis et que là, on passe à peu près une douzaine de couches de l'efficace, on ponce jusqu'à obtenir une surface totalement lisse.
D'accord.
Donc, comme je disais, ça ne se fait plus, on commande les planches toutes faites. Ça, oui. Ben oui.
En Chine ?
Non, en Moldavie, ou je ne sais plus.
Dans un pays de l'Est, quoi.
Oui, dans un pays de l'Est, je ne sais plus.
D'accord, peu importe.
Mais ça se commande par, je ne vais pas dire par camion, mais...
D'accord.
Moi, je le fais.
Mais
moi, je le fais encore.
C'est une activité touristique ou c'est une activité, enfin, un but commercial touristique ou c'est un but religieux ?
C'est un but religieux. Ça se démocratise de nouveau. C'est-à-dire que les gens, actuellement, reviennent vers les icônes. Il y a des demandes. Et là, quand on parle, on parle d'icônes, mais on ne parle que d'icônes écrites. Donc, vulgairement, d'icônes peintes. Mais il y a aussi des bas-reliefs en bois, qui font aussi partie des icônes, et aussi les mosaïques.
D'accord.
Moi, je ne fais pas. Mosaïque, je ne fais pas. Par contre, bas-reliefs sculptés, je fais.
D'accord. Et elles sont destinées à aller dans des églises ?
Oui, dans des églises.
Dans, oui, dans des églises orthodoxes ou des...
Non, pas spécialement.
D'accord. Même les cathédrales et les églises.
Oui, il y en a une à la cathédrale. Non, pas la cathédrale de Nantes, mais dans une église à Nantes, il y en a une. À l'église, dans une église à Guérande. Bon, j'ai vu à l'occasion en visitant.
D'accord, mais dans les églises catholiques, il n'y en a pas tant que ça ? Non, mais à la cathédrale, il n'y en a pas, par exemple.
Non, ici, il n'y en a pas. Il y en a une à Maintenon, dans l'église à Maintenon. Ouais.
D'accord.
Il y a une icône dans l'église à Maintenon.
Parce que autant je les vois dans les églises orthodoxes.
Beaucoup, oui, oui, bien sûr.
C'est orthodoxe. C'est le marché, si j'allais dire.
Oui.
D'accord. Bon. Et ils sont, donc on les représente un peu de manière presque angélique. Enfin, vous disiez...
Sans expression.
Ah, c'est volontaire. C'est comme on fait nos photos, nous, on n'a plus le droit de sourire, c'est ça ?
Presque. Mais c'est ça,
on peut se projeter.
Oui, mais sur l'icône, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs tendances. Ils sont reconnus vraiment les icônes pures, sont les icônes 14e, 15e, début 16e.
Mm-hmm.
Et ce sont des. Les personnages dessus sont sans expression. Ils sont toujours
volontaires.
Et ils vous regardent toujours.
D'accord. Et c'était destiné à qui ? Aux gens riches ou
pas du tout.
Alors, les paysans avaient ça chez eux ?
Oui, selon les matériaux utilisés, il y avait les icônes pour les riches et les icônes pour les pauvres. Et en Russie, chaque famille avait son icône qui protégeait la famille.
D'accord.
Chaque soldat avait une petite icône autour du cou. Mmh. Une petite icône
sculptée,
hein, oui, voilà. Il y avait quand les marchands avaient des petits triptyques, tout le monde avait son icône, aussi bien paysan, noble, bourgeois.
D'accord. Et vous avez dit tout à l'heure que ça recommençait à se démocratiser. Ça veut dire que c'était moins démocratique à une époque. Ou ça a été délaissé, l'icône.
Je pense que ça a été délaissé.
D'accord.
Et là, de nouveau, les gens s'intéressent aux icônes. Peut-être aussi parce qu'actuellement, il y a un engouement pour la Russie. Donc, il y a une redécouverte de l'icône.
Oui, c'est pas que la Coupe du Monde.
Non, c'est pas que la Coupe du Monde.
Je pense que c'est après le fait que l'URSS soit tombée et que l'Église, qui était interdite ou quasiment interdite.
Alors, c'est assez. Oui, en même temps, c'est... oui et non.
Ah, oui, vous êtes normand, non, vous êtes de Calais, je crois.
Parce qu'en fait, quand, lors de la Révolution en 1917, au début, il y a eu une chasse aux sorcières où les icônes ont été brûlées, ont été détruites. Mais pas toutes.
Ils ont résisté. Ils ont résisté.
En fait, ils ont résisté intelligemment. Il y a certains savants du parti qui ont expliqué que, en fait, un des premiers communistes était Roublov. Et Roublov, Saint Roublov, c'est un iconographe, un des premiers grands iconographes qui a été canonisé. Et donc, ils ont décidé de protéger les icônes. Et avant ça, donc c'est intervenu, je pense, dans les années 30. Et juste avant ça, les Russes rouges, en contradiction avec les Russes blancs, vendaient les icônes en Europe. Surtout en Allemagne, en Angleterre et un peu en France.
Donc oui,
c'est ce qui a permis, ils finançaient une partie de, pas la grande partie, mais une petite partie de la Révolution grâce à la vente des icônes. Ce qui a permis pour ces pays-là d'avoir des collections assez, assez importantes.
D'accord. Vous m'avez expliqué, historiquement, c'est très ancien, quoi. Ça fait plus de 10 siècles, facile.
Oui, facile.
Voilà. L'iconographie, ça n'a pas bougé d'une certaine manière.
Non.
On n'a pas le droit de changer quoi que ce soit.
Non. Alors après, il y a plusieurs écoles. Les puristes, bon, c'est les icônes de Roublov. Après, mais c'est très, très vieux parce que ce qui est reconnu comme première icône, ce sont les portraits du Fayoum.
Les portraits
du Fayoum. Ça a été découvert.
C'est qui celui-là?
Au 5e siècle.
Ouais, mais j'y étais pas.
Moi non plus.
Ah bon, et Fayoum, c'est quoi alors?
Alors, c'est des portraits qui ont été retrouvés dans des tombes égyptiennes.
D'accord. Ah oui, alors je vois. Bon, peu importe, mais alors ça me titille aussi parce que moi j'adore l'Égypte. Parce que les sculptures, tout, c'est souriant. C'est pas des scènes où ils sont en train de se tuer les uns les autres à coups de machette. Même les scènes les plus leur pseudo victoire de Ramsès par exemple, c'est apaisé, c'est magnifique, on dirait c'est presque bouddhique. Tellement vous regardez, ça vous donne l'impression d'éternité parce qu'il parle beaucoup d'éternité. Et quand vous évoquez les icônes, donc c'est un peu ça, c'est il faut figer le temps, mais en étant apaisé sans trop... Ça ne manifeste pas les sentiments.
Non.
Ça ne bouge pas, Nicolas.
Ça ne bouge pas.
Non, mais ça ne bouge pas du tout. Les scènes, c'est vraiment...
Oui. Il y a peu d'icônes qui sont...
Il n'y a pas de mouvement.
Non. Non, non. C'est figé. C'est un instant de la vie d'un saint, un instant de la vie du Christ, un instant de la vie de la Vierge.
Mais il n'y a même pas d'animal, rien du tout. C'est toujours...
Ça peut arriver qu'il y ait des animaux. Ça dépend sur... Il y a par exemple.
Saint-Jérôme, on le reconnaît à quoi, puisque c'est votre prénom?
Il y a son lion à ses pieds.
Il a un lion? Parce qu'il a fait quoi?
Il lui a enlevé une épine. Le lion a passé sa vie au pied de Saint-Jérôme.
D'accord.
Saint-Jérôme, Saint-Jérôme, lui, a transcrit les écritures en latin, les saintes écritures en latin.
Bravo.
Je ne parle pas latin.
Ah, moi si, mais je ne m'en souviens pas. Non, c'est la preuve, je vais être une momie, donc c'est pas possible. D'accord. Alors, vous, comment vous êtes arrivé à écrire des icônes, ça y est, je sais, écrire des icônes.
Une rencontre.
D'accord.
Une rencontre. Moi, je suis sculpteur sur bois et sur fer, et lors d'une exposition dans une église, il y avait un couple de Russes qui vivent en France depuis 40 ans, qui exposait les icônes. Et quand je suis arrivé, ça m'a fait quelque chose. Et j'ai dit, oh, c'est beau.
Et ça vous a fait quoi, pardon? Parce que ça aurait été des
ça m'a touché. Tagada, c'était pas... Non, c'est un peu inexplicable. Ça m'a vraiment touché.
Vous aviez une
touché.
Sensibilité particulière? Vous, non, avez, vous avez des origines russes?
Non, du tout.
Ou dans lequel il n'y a pas
du tout. Je suis allé à l'école catholique.
Allé à l'école, quand même.
Catholique. Donc j'ai fait le cursus classique, baptême, petite communion, confirmation, mais bon, pas plus. Mm-hmm. Non, je sais pas, c'est un peu inexplicable, ça m'a touché. Et la première rencontre n'a pas été facile parce que j'ai dit c'est beau.
C'est pas mal, c'est un peu court, mais...
Et j'ai été repris immédiatement en disant une école, c'est pas fait pour être beau.
C'est clair.
Bon, j'ai dit d'accord.
Non ça, plus.
Bon, et puis nous avons lié d'amitié avec ce couple qui sont iconographes tous les deux, qui ont enseigné, qui ont appris à... Elle a appris à Moscou, et lui a appris à Saint-Pétersbourg. Et à partir de là, bon, on a parlé, et puis un jour, ils m'ont dit « tu voudrais pas apprendre ?» J'ai dit non, je veux pas.
Ça a duré très longtemps.
Je me sentais pas capable.
Ouais.
Et puis ils ont insisté un petit peu. Et puis en fait, comme ils n'ont pas d'enfants, ils veulent pas que leur savoir disparaisse.
Mm-hmm.
Donc bon, j'ai dit écoute, je veux bien essayer parce que vraiment ça me touchait. Mais
et vous avez compris pourquoi à un moment ou à un autre, ou vous savez toujours pas pourquoi ça vous a touché?
Je vais dire, ça m'a touché par la beauté. Quand on regarde une icône, c'est comme si on regardait un beau paysage. Mm-hmm. Je me sens serein. Enfin, c'est ce que je ressens, la sérénité. Mm-hmm. Donc j'ai accepté, mais bon, j'apprends encore. Hein, là,
et ça fait combien de temps que vous avez pris
Oui, j'ai commencé par sculpter les bas-reliefs.
Mm-hmm.
Après, j'ai eu le droit à toute une bibliographie. Et puis là, bon, ça fait 2 ans où je travaille vraiment 1 à 2 fois par semaine.
D'accord. Et ça vous prend combien de temps d'écrire une icône, en gros?
Longtemps.
Très bien.
Longtemps, ça va. Bon. Finalement, je veux dire, ça varie. Non, c'est plus. Ah. Si on prend une icône, je veux dire, allez, une feuille classique 21, 29, 7, un format A4. Moi, je pense que j'ai 3 mois de travail dessus.
Ah oui.
Oui, mais moi.
Vous êtes lent. Mais et vous en avez fait combien dans votre vie là? Combien vous en faites dans une année? 3-4
à peu près, oui.
D'accord. Et c'est vous qui choisissez les sujets?
Pour l'instant, non.
Ah bon.
Les sujets sont imposés.
Ah oui, par papa, maman.
Enfin, voilà.
Bien. Et combien d'années avant de maîtriser? Enfin,
je crois que je ne maîtriserai jamais complètement.
Super.
Non.
Mais pourtant, vous les vendez, ils sont magnifiques, vos icônes comme
ça. Oui, mais il y a toujours. J'ai encore. Moi, mon travail est scruté, repris encore, parce que c'est. Bon, je pense que les 2 mètres que j'ai sont très exigeants. Ce qui est très bien, d'ailleurs.
Oui, certainement. Et quand on doit refaire ça pendant des années, c'est super. Vous avez des sujets de prédilection? On vous impose des...
Quand on commence, la première icône, en général, c'est la Sainte Face. C'est-à-dire le visage du Christ, tout simplement.
Mmh, d'accord. Votre formation, vous avez commencé quand?
Il y a 2 ans.
Ah oui, ça va.
Oui, ça va.
Donc
oui,
ça
oui.
Fait 3 à 6.
Oui, à peu près, oui.
D'accord.
Là, oui. De parfaite, 2.
C'est bien, c'est des professionnels. Alors, qu'est-ce que.
Non, mais ça après parfait, ça dépend parfait pour.
Ah, de parfaite.
De parfaite. Après, parfait, ça dépend pour.
D'accord.
Ça dépend pour qui. Moi, je la trouve pas encore parfaite.
Donc, ah oui, c'est si exigeant que ça.
C'est très exigeant.
Mais alors, vous en avez fait quoi des 2 premières que
Non, j'ai gardé. Pour l'instant,
la poubelle, non, même pas.
Non, parce que comme ça montre une évolution. Une évolution. Mais c'est surtout aussi que quand on fait. Parce que tout à l'heure, on était parti sur l'élaboration d'une icône, on est resté sur le lefkas. Après, c'est aussi le travail des pigments.
Ouais.
parce que ce ne sont que des pigments et des comment et le liant c'est au jaune d'œuf.
Ouais,
donc il y a toute une
ancienne, quoi.
Voilà, c'est ça, un jaune d'œuf avec un peu de vinaigre ou un peu de vin, ou ça dépend où on se trouve, un peu de vin blanc.
Et si vous en ratez une, ça existe, ça arrive de...
Non,
ça s'efface jusqu'à...
Enfin, ça s'efface, oui, ça se retravaille.
Oui, jusqu'à temps que
vous... En fait, ça sèche très vite la tempéra, puisque c'est la technique, la tempéra. Ça sèche très très vite, donc on peut reprendre dessus.
D'accord, bon. Et donc, pour le moment, ils sont à vous.
Oui.
Et vous allez travailler pour une église, pour décorer quelque chose de précis? Vous avez un projet dans ce sens? C'est secret?
Non, pas du tout.
C'est secret.
Non, pas du tout. C'est que, pour l'instant, je dépends encore aussi de ce que, je vais dire, mes maîtres décident. Mm-hmm. En fait, j'ai eu une question une fois, qui est, pourquoi un maître et pas un professeur?
Oui.
Parce que d'abord ils se définissent comme tels, et c'est qu'il y a aussi derrière, il n'y a pas simplement une technique, il y a aussi tout un savoir théorique et tout aussi une, je ne vais pas dire un art de vivre parce que c'est un peu fort, mais tout un respect. Quand on fait une icône, on est un peu en prière.
D'accord. C'est bien, un côté mystique, forcément.
Oui.
Oui, est-ce que on vous impose plus ou moins des thèmes, les deux premiers qui sont les plus réussis, on va dire, ça représentait quoi?
Alors, la Vierge et la Sainte Face.
D'accord, c'est les motifs qui reviennent tout le temps, voilà. Et les autres, c'est Saint-Blabédivir, Saint-Jérôme
Saint-Jérôme, je suis en train de travailler dessus, c'est pas fini. Saint-Jérôme, c'est vrai que... Bon, Saint-Jérôme, ce sera pour moi.
Oui, tant qu'à faire.
Je vais la garder pour moi. Donc, je travaille sur le... Je travaille Saint-Jérôme sur le côté, parce que c'est vrai que je travaille sur une icône, je travaille dessus deux heures.
Mm-hmm.
Et après, oui, après, j'arrête.
D'accord, on ne peut pas travailler en continu.
On doit pouvoir le faire, mais...
C'est pas très moderne, finalement, parce que la modernité fait que...
C'est pas moderne du tout.
Ah oui. C'est très, très rétrograde, classique.
Non, très classique. Ça n'a pas changé, en fait. Toujours les mêmes matériaux. Bon, il y a la même méthode. Il y a eu une évolution au niveau des pinceaux, bien sûr.
Oui, c'est donc quelque chose relativement mineur.
C'est rien, quoi. C'est insignifiant.
Très bien. Et vous pensez que c'est appelé à se développer dans les églises catholiques?
J'espère. Il y a eu un rapprochement aux années 75, je crois, 75-80, entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe.
Vite, hein. D'accord. Et oui, donc ça reste plutôt dans le monde orthodoxe, malgré tout.
Beaucoup, oui.
D'accord. Et vous n'avez pas choisi d'être orthodoxe?
Non.
Non? Et par l'amour de...
Peu importe. Je pense que, soit orthodoxe, catholique...
On peut aimer les icônes.
On peut aimer les icônes.
Bon, bah écoutez, impeccable, sauf erreur, ça doit être bon pour le temps. Merci. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, on vous invitera avec Marie-Estelle, votre
épouse,
femme, pour parler de la sculpture bois et de la sculpture sur fer.
Oui.
À deux,
c'est avec
facile.
Plaisir.
Grand merci. Je vous passe une bonne soirée et à la prochaine fois.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.